Henri de Régnier, La double maîtresse, première partie, chapitre 9. Le retour de Julie au Fresnay était accueilli chaque année avec joie. Plusieurs semaines d'avance, on s'y préparait. Madame du Fresnay composait ses friandises les plus appétissantes. Les buffets s'emplissaient d'assiettes odorantes et de flacons parfumés. Le plus beau du goût de Madame du Fresnay pour les pâtisseries était que ni elle ni son mari n'y touchaient jamais. Ils détestaient tous deux les sucreries. Et toutes ces bonnes choses s'en allaient sur les tables du voisinage. Madame du Fresnay les distribuait à qui voulait, et on vit des mendiants et des pauvres entrer dans la cour du château pour y demander un morceau de pain, en sortir la bouche pleine et la besace remplie des plus délicates gourmandises. Monsieur du Fresnay riait tout le premier de cette folie de sa femme et en plaisantait volontiers, ce qui la fâchait au rouge en attendant qu'elle finît par convenir de bonne grâce de cet aimable travers que son mari mettait en chansons, en ariettes et en refrains. Lui aussi fêtait à sa façon le retour de la petite. Il accordait son violon d'une mine attendrie, pirouettait sur les talons et sifflait un air à danser qui s'arrêtait entre ses dents à mesure qu'il approchait de Pontaubel, car Madame de Galando lui en imposait fort et il redoutait toujours que quelque lubie de la dame lui refusât sans recours cette gentille nièce dont elle n'avait vraiment que faire, ni elle ni ce grand niais de Nicolas. À peine Julie descendue de berline, embrassée, cajolée par Madame du Fresnay, qui l'accablait de tendres noms et de caresses passionnées, on la conduisait à la chambre qui lui était réservée et qui formait un petit appartement élégant et coquet. Certes, on ne trouvait pas au Fresnay les grandes proportions de Pontaubel, mais tout y était par contre joli, commode et pimpant, arrangé au goût du jour, plein de meubles galants et de tapisseries claires. Le salon en rotonde donnait sur un long jardin au bout duquel M. du Fresnay avait fait construire un pavillon de musique. Les colonnes soutenaient un fronton octogone. L'édifice était sculpté d'attributs et de guirlandes et fourni de pupitres à jouer et d'instruments divers. M. du Fresnay y passait beaucoup d'heures à étudier. Julie venait souvent rôder autour. Elle écoutait l'harmonie qui filtrait au dehors par les hautes fenêtres. Elle voyait M. du Fresnay debout, le violon collé au jabot, ses belles manchettes de bretelles s'agitant au mouvement de l'archet. Lui l'apercevait et faisait signe d'entrer. Elle ne pénétrait dans le pavillon qu'avec un respect curieux et sur la pointe de ses petits pieds, sans toucher à rien, et elle se haussait pour regarder à la fente noire des violoncelles et à la lucarne des contrebasses. De temps à autre, quelques amateurs se réunissaient à M. du Fresnay pour donner concert. On voyait là M. de Pintel et M. Levasseur. Ils s'introduisaient mystérieusement dans la petite salle et chacun prenait place sur une haute chaise devant un pupitre. Selon le nombre, ils faisaient trio, quatuor ou quintette. Julie aimait aller voir battre la mesure de la semelle, hocher la tête de contentement et cligner de l'œil aux bons endroits. Quelquefois, M. Lemellier, ancien conseiller au Parlement et qui habitait non loin du Fresnay, venait seul jouer quelque air de vielle. Il excellait véritablement à cet instrument rustique, et Julie s'amusait fort des sons nasillards qu'il en tirait. Ces jours-là, la fillette se couchait tard, car M. Lemellier ne se présentait guère au Fresnay que dans la soirée. Il passait ses journées dans sa bibliothèque à juger des procès imaginaires, car il ne se consolait pas d'avoir, par humeur, vendu sa charge et de s'être par dépit exilé au champ. Pour se distraire de son chagrin, il se faisait à lui seul tout un parlement. Il entendait les parties, ordonnait les enquêtes, cassait, renvoyait, enregistrait, entérinait, se chargeait des plaidoiries, des débats et des arrêts, et concluait, après de grandes et inutiles recherches, en ses litiges factices et ses cas vains qu'il imaginait les plus compliqués et les plus embarrassants possibles. Puis, encore tout animé de ses audiences solitaires, il dînait vite et seul, prenait sa vielle et, pour se dégourdir les jambes, s'y jouait d'interminables bourrées qu'il dansait en songe, à moins qu'on ne le vît arriver au Fresnay, passer la soirée en compagnie. Il se mettait en route à travers champs et par des petits chemins déjà obscurs. La vielle, en bandoulière et enfermée dans un sac de peau, gonflait les plis amples de sa grosse houppelande. Les chiens aboyaient dans la cour des fermes endormies. Le bichon de Madame Dufresnay, engourdi sous la jupe de sa maîtresse, se dressait sur ses pattes et son museau rose, hors de ses poils soyeux, jappait rageusement vers la porte du salon. Elle s'ouvrait et on apercevait dans le vestibule Monsieur Lemellier se débarrassant de ses hardes et ôtant ses galoches fourrées, car les boues de l'automne ne l'arrêtaient point, non plus que les pluies du printemps ni les neiges de l'hiver. Malgré la nuit, on se rendait au pavillon. Monsieur Dufresnay portait une lanterne. Madame Dufresnay et Julie suivaient en mitouflé. Le jardin rayonnait d'une obscure blancheur, d'une ombre argentée sous un ciel d'étoiles. La neige craquait au pas. La lanterne balançait son mobile reflet. On entendait le rire clair de Julie, puis le pavillon s'illuminait à giorno. Monsieur Lemellier tirait alors la vielle de son sac. Elle apparaissait, côtelée et ventrue, en sa rondeur de gros scarabée sonore et endormie. Il la passait à ses reins par une courroie, puis il tournait la manivelle et il faisait gronder le bourdon et la niargue. Le pavillon résonnait d'une musique grêle et stridente, saccadée et rauque. Et M. Lemellier entamait son interminable répertoire. À minuit, d'instinct, il tirait de son gousset une grosse montre, la portait à son oreille et la faisait sonner. Elle tintait d'une sonnerie fine et lointaine, campagnarde, si l'on peut dire, comme si l'heure eût été apportée par le vent, rapetissée et minuscule, de quelque horloge de village, là-bas dans la nuit. Alors, M. Lemellier rentrait à la maison, reprenait sa houppelande et ses galoches, et s'en allait à grands pas, après avoir bu un ou deux petits verres des liqueurs de Madame Dufresnay. On l'entendait un instant au dehors, puis le bruit cessait. Un grand silence se faisait, et, peu après, la boîte éloignée d'un chien. Et M. Dufresnay disait « Voici le chien de la ferme qui salue M. Lemellier. Il a tourné à la route. » Et, pendant que M. Lemellier arpentait la campagne glacée, M. Dufresnay prenait délicatement Julie endormie sur un fauteuil et la montait doucement à sa chambre, où Madame Dufresnay la mettait au lit sans qu'elle se réveillât. Julie, donc, se plaisait beaucoup au Fresnay. Madame Dufresnay prenait tous les soins imaginables, et entre autres, celui de la vêtir coquettement, à quoi la fillette n'était déjà pas insensible. Julie revenait chaque fois de Pontobel avec des habits que la sévère Madame de Galandeau lui faisait coudre à l'ancienne mode par ses deux vieilles servantes qui ignoraient complètement l'art d'en agrémenter l'étoffe commune et la forme surannée. Madame Dufresnay, au contraire, tenait beaucoup à ce que la mise de l'enfant fit valoir sa gentillesse naturelle. Aussi veillait-elle elle-même à l'ajuster. Elle n'en restait pas là et s'inquiétait également de sa croissance, de sa taille et de son teint et se souciait de la trouver en bonne formation. À son retour, elle ne manquait pas de lui en faire subir une sorte d'examen, la palpant et la retournant en tous sens afin de se rendre un compte exact de l'état de toute sa petite personne. Julie se prêtait volontiers et avec patience à cette revue. Elle aimait la parure, ayant tôt remarqué que les vieux amis de M. Dufresnay considéraient déjà sa jolie mine. Ils contribuaient à l'embellir par de petits présents de toilette et par le don de menus bijoux. Tout alla bien, ainsi, jusqu'à ses 13 ans. Cette année-là, elle revint de Pontobel, fort enlaidie, et tous les soins de Madame Dufresnay n'y purent rien changer. Elle était grandie de plusieurs pouces, mais son corps et sa figure étaient, pour ainsi dire, en désordre. Sa croissance se faisait en désaccord. C'était le moment de l'âge ingrat et l'ingratitude de Julie fut remarquable. Avec cela, elle devint mélancolique. On chercha en vain à la distraire. Elle, si expansive, se refermait. De gracieuse, elle se rechigna et les bons Dufresnay la virent repartir pour Pontobel avec quelque inquiétude. Julie prétendait vouloir rentrer au couvent et il craignait que les sermons de Madame de Galandeau ne la poussassent en cette voie. Le pauvre Nicolas eut à subir pendant 3 mois les tristesses de sa petite amie. Il en profita pour tâcher de lui apprendre quelque chose. Il y réussit. Bientôt, elle lut et écrivit couramment. Les jeux d'autrefois avaient cessé. Nicolas aurait bien voulu trouver à distraire sa triste cousine, mais il était un peu court de moyens et sans les ressources nécessaires, ni en lui-même, ni par les autres. Aussi, Julie retourna-t-elle au Fresnay comme elle en était venue. Pourtant, M. Dufresnay, qui, quoique honnête homme, se connaissait en Tendron, ne fut point sans s'apercevoir d'un changement qui, peu à peu, s'opérait en Julie et qui eût passé inaperçu à un œil moins exercé. Il la trouvait intéressante sous sa laideur passagère. Une beauté secrète, une grâce dissimulée, un charme caché lui apparaissait sournoisement en ce visage encore incertain et qui, aux yeux de tous, ne faisait encore semblant de rien. M. Dufresnay guettait la surprise de cette éclosion prochaine dont il prévoyait l'éclat et dont il pressentait le parfum, et il souriait à part soi quand Mme Dufresnay se lamentait de la disgrâce de Julie, content de savourer à l'insu de tous l'instant délicieux de cet avant-printemps où les fillettes vont devenir filles. L'hiver encore se passa pour Julie dans une sorte de dégoût de toute chose que rien ne pouvait vaincre et qu'avouait la gaucherie découragée et la langueur palote de toute sa personne. Elle laissait au fond des armoires les jolies robes que la bonne Madame Dufresnay lui avait fait tailler et s'obstina à porter les hardes, s'étriquer, dues aux ciseaux inhabiles des antiques chambrières de Pontobel. Il lui arrivait de s'enfermer dans sa chambre des journées entières et c'est en vain que Madame Dufresnay, du bas de l'escalier, s'égosillait à l'appeler pour goûter un bonbon ou dire son avis sur une friandise. Julie ne répondait pas et Madame Dufresnay regagnait ses fourneaux en agitant avec désespoir ses beaux bras enfarinés. Monsieur Dufresnay suivait avec intérêt ses giboulées. Parfois, il parvenait à emmener avec lui Julie au pavillon de musique. Elle s'asseyait tristement sur un tabouret, lui se tenait devant elle et prenait son violon. Au lieu de distraire la mélancolie de la jeune fille par des mélodies vives et légères, il lui donnait au contraire l'aliment des airs les plus tendres et les plus langoureux. Il la berçait de longs murmures passionnés et cherchait à jouer avec délicatesse et sentiment. Toute cette musique amoureuse emplissait le petit pavillon sonore. Peu à peu, le jour baissait et M. Dufresnay continuait par cœur dans l'ombre. Quand il s'interrompait, le silence obscur lui répondait par le craquement de quelques bois d'instruments ou bien il entendait parfois Julie pousser un long soupir. Aux bougies, ensuite, il lui voyait le visage encore mouillé de larmes, les yeux délicieusement beaux d'avoir pleuré. Elle ressentait en ces jours troubles tout ce que son être pouvait par nature produire de mélancolie, comme pour d'avance en délivrer à jamais. Ce furent ses seules larmes, et, plus tard, la vie n'en obtint plus d'elle. Ni les plaisirs, ni les tourments ne lui arrachèrent jamais de pleurs. La volupté même l'enivra sans l'attendrir, et elle n'offrit jamais à l'amour que le sourire de sa belle bouche. Un jour, que M. Dufresnay montait à la chambre de Julie pour lui proposer une de ses parties au pavillon, il trouva la porte entrebâillée et il la poussa sans faire de bruit. Mademoiselle de Mauceuil se tenait debout et le dos tourné, un miroir d'une main. Ses cheveux frisaient sur sa nuque. Elle était en corset et M. Dufresnay vit, reflété dans la glace, un fin sourire et une gorge charmante qu'elle y mirait et où elle touchait d'un doigt étonné la pointe naissante de son petit sein bien formé. M. Dufresnay referma la porte doucement, descendit l'escalier en fredonnant et sortit dans le jardin. Il faisait doux, les massifs bourgeonnaient, Mars finissait en ondes tièdes et en chaud soleil. Il se sentit guilleret et dispos et résolut à brusquer ce qu'il appelait en lui-même le printemps de Julie. L'occasion se présenta belle. Il n'était bruit dans le pays que de l'arrivée et du séjour à la ville du régiment de Royal Lorraine que des rumeurs de guerre et des marches de troupes y avaient amené. Monsieur Lemellier, qui avait assisté à l'entrée de cette cavalerie, n'en tarissait pas et répétait sur sa vielle la sonnerie militaire des trompettes. C'était en effet un fort beau régiment que celui de Royal Lorraine, le seul qui, de tout le royaume, porta des bourses blanches à ses étendards. Il se composait, selon l'ordonnance, de 5 escadrons, dont 4 de cavalerie et 1 de chevaux légers. Chaque escadron formé d'une compagnie, commandée par un capitaine commandant, un capitaine en second, un premier lieutenant, un lieutenant en second et 2 sous-lieutenants. La compagnie, composée d'un maréchal des logis, d'un fourrier écrivain, de 8 brigadiers, d'un cadet gentilhomme, de 152 maîtres, de 2 trompettes, d'un timbalier avec ses timbales, d'un frater et d'un maréchal ferrant. Ce fut un fier spectacle qui mit la ville aux fenêtres et aux portes pour les voir déboucher par la grand-rue un beau matin. Ils avançaient en bon ordre. Les sabots des chevaux tiraient des étincelles du pavé. Il y en avait, entre autres, beaucoup de pommelés. Laurent tenait toute la rue de front et montait jusque sur les trottoirs. Des croupes rebondies rasaient les murs des maisons. On sentait une odeur de cuir et de poils chauds. Une fois les soldats en parade sur la place, on les vit mieux. On se montrait le colonel qui se nommait le marquis de Vidrecourt. Il portait bien la double épaulette tressée en argent, ornée de franges à graines, nœuds de cordelière et cordes à puits, sans broderie ni paillettes, dont le lieutenant-colonel ne porte qu'une du côté gauche, tandis que celle des premiers lieutenants est losangée de carreaux de soie couleur de feu. Les cavaliers avaient l'habit-veste de drap bleu de roi et les parements et les revers aurore. Le manteau de drap gris-blanc, piqué de bleu, le gilet et la culotte de drap blanc, la housse des chevaux également de drap bleu. Les cheveux des hommes étaient renfermés dans un petit sac de veau noirci, appelé vulgairement crapaud. Ils portaient le chapeau à quatre cornes, celle de devant, retroussée brusquement, ainsi que celle de derrière, la corne du côté gauche horizontale, et celle du côté droit inclinée pour l'écoulement de la pluie. Les soldats avaient été fort bien reçus. On ne se lassait pas d'aller visiter leur quartier. Les dames se divertissaient à voir les baraques, les chevaux au piquet, l'étendard gardé par un cavalier, l'épée à la main. Elles ne craignaient pas de marcher dans le crottin pour suivre de près les habitudes du camp dont les officiers leur faisaient les honneurs. Quant à eux, on se disputait le plaisir de les héberger et plus d'un trouvait là bon souper, bon gîte et le reste. Il y avait justement parmi eux un certain monsieur de Portebise que monsieur Dufresnay avait connu jadis à Paris durant l'un des voyages qu'il y faisait quelquefois pour visiter les maîtres luthiers de la capitale et s'y fournir d'instruments de musique. Il logeait au même hôtel que l'officier. Ils se plurent réciproquement. Monsieur Dufresnay prolongea son séjour à Paris et en revint même assez penaud et les poches vidées au tripot où l'entraîna son nouvel ami, qui y était assidu, non moins qu'aux filles qui les fréquentent, et sont là pour faire rendre gorge aux pontes heureux. M. de Portebise avait cessé de l'être. En revoyant M. Dufresnay, il ne lui cacha rien de ses infortunes, en accusa avec franchise l'usage immodéré du jeu et des femmes. Ses traverses n'avaient point trop altéré sa bonne humeur. Il était encore, passé la quarantaine, un assez bel et gros homme, avec de la tournure, du bagout, et ce fut à lui, tout naturellement, que M. Dufresnay s'ouvrit du projet de donner, la semaine d'après Pâques, un bal à messieurs les officiers du régiment. Le gros Portebise, comme on l'appelait, l'y engagea fort et lui offrit de se charger du détail de la fête. Les préparatifs allèrent leur train et tout fut prêt aujourd'hui. On dansa aux lanternes. Une longue galerie de treillages verts fut construite dans le jardin Dufresnay. Elle avait pour ouverture quatre portiques par où l'on entrait et sortait. Des banquettes de velours garnissaient les murs. Cinq grands lustres de feuillage éclairaient et des guirlandes de verdure s'entrecroisaient au plafond. À un bout s'élevait une estrade pour les musiciens. Tout le jardin était illuminé. Des lampions traçaient la forme des parterres et, comme la nuit était singulièrement douce et belle, tout se passa à souhait. Les carrosses avaient amené les dames de la ville et du voisinage. Les officiers et les gentilshommes s'empressaient galamment auprès d'elles, et tout cela formait un bruit joyeux de pas, de rires et de musique. Le bal venait d'être ouvert par M. de Vidrecourt et par Mme Dufresnay, en vis-à-vis, quand Julie fit son entrée. Elle se tenait debout, en pleine lumière, sous le portique de treillage. Essoufflée, car elle avait couru d'un trait jusque-là, et toute confuse, et comme prête à pleurer. Son corsage à pointe lui faisait une taille longue et menue dans le bouffant des paniers. Ses épaules, nues et tièdes, frissonnaient un peu. Son visage était charmant et allait bien avec la fraîcheur de toute sa personne. Elle restait là, immobile et rougissante, puis la petite moue de ses belles lèvres s'acheva en sourire. Elle portait à la main un petit éventail fermé qu'elle ouvrit et elle entra dans la salle de bal d'un mouvement délicieux et hardi. Sa vue causa une surprise et une admiration. Comment reconnaître la petite Julie en cette belle demoiselle de Mauceuil ? Sa beauté imprévue s'était soudain épanouie. M. Dufresnay jubilait. On s'empressa autour d'elle. M. de Videcourt lui fit un compliment tout militaire. Quant au gros porte-bise, qui, la veille encore, ne remarquait pas plus Julie que si elle n'eût pas existé, il se déclarait, qui voulait l'entendre, ébloui de ce miracle, et ce fut de lui que la jeune fille entendit le premier propos galant. Il ne la quitta pas de la soirée, et ce fut encore à son bras que, le bal terminé, il se rendit sur le pré pour voir la fête rustique où dansaient les valets et les paysans. Là, c'était M. Lemellier qui menait le branle. Grimpé sur un tonneau enrubanné et enguirlandé de lierre, le grave magistrat jouait de la vielle infatigablement. Il marquait la mesure du pied et de la tête, tandis qu'autour de lui, les couples se trémoussaient et, dans la nuit toute claire de flambeaux, on entendait sur le sol le bruit des sabots et des gros souliers se mêler dans l'air au grondement du bourdon et au nasillement de la niargue. Et M. Lemellier ne cessa pas jusqu'au matin de faire se démener tout ce monde au son de sa bonne vielle de Ganap.